Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce. Mon nom est Antoine Gagné et mon objectif est de vous aider à bâtir un commerce élite. Et cette semaine, c'est la partie influenceur qui est abordée sur le podcast. Après plusieurs polémiques s'étant déroulées autour du métier d'influenceur spécifiquement en France, on explique comment ces derniers changements peuvent impacter les boutiques en ligne pour le futur. Bonne écoute! On ne pouvait pas passer à côté de cette nouvelle. Meta is cool again. Si vous suivez notre autre podcast Social Selling dédié à la publicité Facebook, vous savez probablement de quoi nous parlons. Pour les autres, c'est important que vous compreniez ce qui est en train de se produire au niveau de Meta et forcément au niveau de Facebook Ads. Voici quelques chiffres qui ont été publiés dans leur publication du 27 avril 2023. Plus de 3 milliards de personnes utilisent au moins une de nos applications chaque jour. 200 millions d'utilisateurs actifs quotidiens aux États-Unis et au Canada. Les Reels sont partagés plus de 2 milliards de fois chaque jour et participent pleinement à la croissance de l'engagement sur l'application du groupe. Mais le point réellement important et dont on a parlé sur Social Selling et qui aura un impact pour vous, annonceurs et e-commerce, c'est l'IA. Son utilisation a permis d'augmenter de 24% le temps des utilisateurs sur Instagram seulement. Et ça marche aussi pour les publicités, car l'IA a permis d'augmenter la monétisation des Reels de 30 à 40% sur les deux applications entre Q4 2022 et Q1 2023. Les impressions publicitaires ont nécessairement augmenté de 23% sur la même période, ce qui est gigantesque pour un tel acteur de la publicité en ligne. Le revenu moyen généré par des campagnes Advantage Plus a été multiplié par 7 sur les 6 derniers mois grâce à l'intelligence artificielle. C'est un type de campagne dont on vous parlera prochainement dans une autre chronique de Commerce Élite, mais dont on parle souvent sur Social Selling. Bref, Meta est absolument de retour après 2 années plus complexes, titre le Media Insider, mais aussi l'agence Reuters, qui nous explique qu'en des temps plus complexes dans la publicité, les annonceurs veulent davantage se fier à des plateformes ayant performé dans le passé, à savoir Meta et Google. Les analystes observent que nous sommes revenus à des performances d'avant iOS 14, la fameuse mise à jour de 2021, qui a renversé la table des publicités en ligne et plongé de nombreux annonceurs dans la tourmente, osons dire les choses. Nous-mêmes, c'est ce qu'on observe avec nos propres comptes Facebook Ads. Ça va très bien. Donc, si par une erreur monumentale, vous avez quitté la plateforme publicitaire de Meta, c'est le moment de revenir rapidement. Le marketing d'influence est de plus en plus sous haute surveillance, spécifiquement en France. Beaucoup de polémiques sont survenues dans les derniers temps autour de personnalités grandement connues ayant fait la promotion de produits assez controversés. Qu'est-ce que ça veut dire pour les commerces en ligne? Est-ce que le marketing d'influence pourrait connaître un changement drastique dans sa manière d'opérer? On en parle pendant une vingtaine de minutes avec la directrice de la création chez Pure Commerce, Antonia Racotto. Bonne écoute! On est de retour sur le volet discussion du podcast Commerce Élite et aujourd'hui, je suis en compagnie de notre directrice de la création dans le groupe G7, spécifiquement également chez Pure Commerce, Antonia Racotto. Antonia, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien, très contente d'être ici.
Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent, Antonia, parce que les dernières fois que tu étais venue sur le podcast, tu nous avais parlé des meilleurs contenus qui avaient fonctionné pour le Black Friday. Tu nous as parlé également des contenus vidéo qu'on devait absolument tester dans notre organisation. Mais aujourd'hui, c'est le marketing d'influence qui va prendre la place sur le podcast. Marketing d'influence qui, récemment en France, ça a été assez complexe, là.
Exactement. Le marketing d'influence est de plus en plus encadré. Rien qu'au premier trimestre 2023, 50 influenceurs en France ont subi des contrôles et 60% d'entre eux étaient passibles de poursuites pour pratiques commerciales trompeuses. C'est assez effrayant. C'est beaucoup plus que ce qu'il y a eu sur toute une année l'année passée. Donc, on se dit il y a une dynamique qui s'installe au niveau du gouvernement et il faut faire attention.
Et bon, nous, on a une audience de propriétaires, de commerce en ligne, de directeurs marketing, de commerce en ligne. Comment ça vient impacter un petit peu leur réalité? Peut-être que tu pourrais donner un peu de contexte sur qu'est-ce que eux font, les influenceurs, pour ces différentes entreprises qui vont vendre en ligne et ultimement, comment ça peut impacter les gens?
Alors, tout d'abord, il y a déjà des cadres qui se dessinent. Les influenceurs utilisent déjà depuis un certain moment le hashtag sponsor, sponsorisé ou ad sur le contenu qu'ils produisent. Et ça s'est vraiment démocratisé pour être plus transparent lorsqu'ils font une communication commerciale. Et cette obligation de transparence, finalement, on la retrouve déjà dans de nombreux gouvernements. C'est dans la loi, ils le disent. Je vais le lire, laisse-moi retrouver la petite ligne. Toujours être reconnaissable comme tel, et qu'il faut communiquer de manière transparente et claire aux consommateurs et qu'il s'agit bel et bien d'un message commercial. Toutes ces règles-là, on les retrouve aussi pour la télévision dans la plupart des pays.
Puis dis-moi, d'où est-ce que c'est venu ces enquêtes-là, ces questions-là à se poser? Parce qu'au final, je veux dire, ça passait un peu inaperçu avant de se dire, on a des influenceurs qui vont faire de la promotion de produits comme des porte-paroles qu'on pouvait voir dans le passé dans des campagnes à la télévision. Qu'est-ce qui a mis autant de lumière sur peut-être ces pratiques un peu controversées, cette promotion de produits qui, des fois, soyons honnêtes, n'étaient peut-être pas des produits de qualité. Qu'est-ce qui a mis de la lumière sur tout ça?
C'est toutes les nouvelles pratiques commerciales. Déjà, il y a le dropshipping, donc le fait aussi qu'on ne peut pas toujours vérifier d'où viennent les produits. Et puis, il y a aussi le fait que ces influenceurs gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est des nouveaux métiers. Et à partir du moment où il y a beaucoup d'argent qui est impliqué, le gouvernement, tout de suite, a voulu voir qu'est-ce qui se passait, tout simplement.
Tu comprends très, très bien. Puis bon, donc nous, on le sait, chez Pure Commerce, on aide beaucoup de boutiques en ligne. On possède également nos propres boutiques en ligne. Toi, vite comme ça, comment tu sens que ça va changer un peu l'environnement des pratiques avec les influenceurs? Comment qu'on doit faire appel peut-être dans le futur à des influenceurs pour du marketing d'influence?
Il va falloir bien les choisir. Il faut vraiment bien les choisir, leur donner des briefs particuliers parce que pendant longtemps, on a laissé un petit peu carte blanche aux influenceurs en leur disant « voici le produit que j'aimerais promouvoir, fais en sorte que ça fonctionne ». Et en réalité, c'est pas ça qui va donner une bonne publicité ou une bonne communication commerciale. Ça va être vraiment de leur donner un brief en fonction des retours qu'on a sur notre compte, de la data qu'on a pu accumuler et de leur dire tout simplement « voici le type de mots-clés qui fonctionne, voici la manière dont on doit manipuler le produit ». Des guidelines finalement qui sont hyper logique pour la plupart d'entre nous, mais qui finalement, il faut les mettre sur papier et leur dire de les appliquer, tout en bien évidemment ajustant en fonction de la personnalité de la personne. C'est à eux aussi de mettre leur petite touche, de mettre leur ligne éditoriale et de l'adapter à leur image.
Et donne-nous un peu des exemples. Donc, je vois un peu, j'ai la chance de voir les recherches que tu as faites sur un document. Donc, j'ai la chance de voir tout ça devant moi en ce moment. Tu parles d'exemples dans le fast fashion qui a créé énormément d'enjeux, on dirait, avec des influenceurs qui font des reviews avec des commentaires qui sont pas du tout des bons commentaires, comme si les produits, au final, étaient pas ce qu'on avait promis aux clients. Comment ça s'est mis en place, tout ça?
Ça s'est mis en place avec une pratique qui fait assez fureur depuis le début d'année, c'est le de-influencing, à savoir communiquer sur un produit ou sur une marque en disant « il ne faut surtout pas l'acheter, ne faites pas ça, ne le prenez pas ». Ton hook, c'est « ne touchez pas à ce produit, il est mauvais pour vous ». Et donc, il y a des influenceurs et des influenceuses qui ont fait justement donc ces reviews dans de la fast fashion en disant « je vais le tester ». Je vais voir comment ça prend, si c'est si horrible que ça. Mais déjà, on a un discours biaisé dès le départ. Pourquoi acheter, contribuer au rayonnement d'une marque si vraiment on est contre les pratiques qu'on a pu lire? Bon, ça, je vais pas commenter à ce niveau-là, mais ça donne tout simplement de la visibilité à la marque. Quoi qu'il arrive, il y a forcément des personnes, même s'ils voient les points négatifs, on va forcément trouver une cible dans tout ça qui va vouloir acheter le produit. Donc, ça fait un petit peu, ça reprend l'expression qu'on parle de moi en bien ou en mal. Tant qu'on parle de moi, c'est le principal. Donc, finalement, c'est encore un outil marketing, même si on fait croire qu'on veut sauver les consommateurs de la consommation.
Et dis-moi, ce de-influencing-là, c'est parti de littéralement des marques qui voulaient travailler avec ces influenceurs-là ou ces influenceurs-là qui, de leur propre gré, ont décidé de parler en mal de ces propres marques-là?
Ça vient un petit peu des deux. De base, c'est des influenceurs qui voulaient vraiment enfin, bon, je vais pas parler à leur place, mais qui voulaient vraiment être dans une, dans un objectif de dénonciation. Et puis, les marques s'en sont emparées. Et ils ont fini par créer eux-mêmes des publicités qui sont un petit peu contre-intuitives, on va dire ça comme ça, en disant, surtout, n'achetez pas ce produit. Donc ça, ça va être encore une fois leur hook. Mais après, ils vont dire, sauf si vous voulez avoir tel ou tel aspect positif. Je vais donner un petit peu l'exemple d'un UGC vidéo qui était du contenu sponsorisé, une ads. Je ne sais même pas si c'est un influenceur ou la marque elle-même qui a appelé un de leurs employés à faire cette publicité. Mais c'était une publicité pour promouvoir des litières pour chats. Et donc, la publicité disait, n'achetez surtout pas cette litière, sauf si vous n'appréciez pas que votre chat soit heureux. Sauf si vous n'aimez pas supprimer les mauvaises odeurs. Donc, tu vois un petit peu ce message contre message pour pouvoir interpeller les personnes. C'est assez ingénieux en réalité.
Intéressant. Donc là, bon, on voit un petit peu ce qui s'est déroulé. Est-ce que ça s'est déroulé spécifiquement en France, Anthony? On a moins vu ça, on pourrait dire au Canada, si je crois bien.
En France, mais la publicité dont je te parle est canadienne. Donc, vraiment, ça s'exporte dans le monde entier.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Elite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne, en offrant tous les services qu'une boutique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour débuter l'année en force, rendez-vous au www.purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse, ou encore venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. OK, donc faut rester à l'affût pour les directeurs marketing, les propriétaires de e-commerce qui nous écoutent aujourd'hui, que vous soyez en France ou au Canada, si vous n'êtes pas au courant de cette, on pourrait dire, dynamique un peu spéciale qui s'installe dans le monde de l'influence, soyez vigilants parce que beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler. Et là maintenant, je me mets dans la peau de ces propriétaires d'entreprises, de ces directeurs marketing e-commerce. Quels sont leurs plans B pour continuer à travailler avec des influenceurs? Parce que là, on doit le faire peut-être un petit peu à reculons, on ne veut pas être pris au piège d'avoir quelqu'un qui parle en mal de notre produit. Comment qu'on doit peut-être s'adapter dans une réalité comme ça?
Il faut leur donner un brief très clair et surtout ne pas collaborer avec des personnes qui ne correspondent pas à l'identité de votre propre marque. Votre influenceur, quand vous le choisissez, il faut qu'il soit le reflet de votre public cible. On veut que ce soit quelqu'un qui soit comme un client de votre entreprise finalement. Donc il faut vraiment choisir une bonne personnalité pour collaborer avec beaucoup de transparence avec lui sur vos attentes et pouvoir leur donner des retours. Ce ne sont pas des stars, on n'est pas sur de la starification. Donc l'idée, c'est que quand on a un influenceur, on a finalement un prestataire. Donc, on a le droit de lui donner du feedback et de demander des ajustements pour que ça colle à vos attentes.
Intéressant. Très intéressant. Et toi, de ton côté, le monde de l'influence, ça va pas partir. C'est pas prêt de disparaître, là, à mon avis, là. Ça doit s'adapter un peu.
Non, je pense vraiment pas que ça va disparaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va vraiment vers du UGC. Donc, même au niveau de l'influence, on veut plus d'authenticité en faisant appel à des personnes qui représentent un peu plus, encore une fois, monsieur et madame tout le monde. Donc, je pense que ça va pas disparaître. Pour l'influenceur qui a beaucoup d'abonnés, qui est mis au rang de star, c'est pas forcément le type d'influenceur avec qui on va collaborer, tout simplement parce que si on n'est pas une très très grande marque, on n'aura pas forcément un bon retour sur investissement, et puis tout simplement parce que ce sera pas forcément considéré comme du social proof, vu qu'on va de plus en plus vers du UGC. Et puis, faut savoir que les influenceurs d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de demain. On va préférer des comptes plus petits, encore une fois, comme je l'ai dit, plus authentiques, et puis qui va s'adapter à la taille de l'entreprise.
Très, très cible sur notre entreprise. On doit être un petit peu plus vigilant sur notre recherche. Je te parlais de quelque chose d'intéressant, Antonia. Je te parlais de UGC, te parlais de contenu publicitaire. En 2023, quand on travaille avec un influenceur, quel type de catégorie de contenu on se doit peut-être de mettre dans notre entente avec l'influenceur? Quel type de publicité qui est encore pertinent de faire avec ces mêmes influenceurs?
Alors, tout dépend déjà du placement, si c'est en stories, si c'est des stories éphémères ou si c'est vraiment du contenu qui pourra être utilisé en evergreen. Mais de manière générale, pour du evergreen, là, on peut toujours faire appel à des influenceurs. C'est pour les unboxings où on voit leur visage, on veut une réaction à chaud. Ça, c'est très important pour le social proof. Tout ce qui est tuto et démonstration de produits, on voit le produit qui est porté, qui est manipulé. On a vraiment une vision réaliste du rendu du produit. On va aussi faire appel à eux pour tout ce qui est coup de cœur, storytelling, où l'influenceur va leur dire « voici ma sélection de produits ». Donc, une sélection qui lui est propre, qui correspond à ses propres besoins et où il va expliquer pourquoi ça fonctionne et pourquoi il l'aime. On va aussi avoir tout ce qui est vlog. Ça, notamment en Reels, ça fonctionne très bien pour tout ce qui est invitation à des événements de marque. Ça fonctionne très, très bien. Et puis, on a le traditionnel, la petite photo avec le produit. Que ce soit un influenceur ou un mannequin, finalement, c'est toujours une recette qui fonctionne.
Intéressant. J'aimerais peut-être parler un petit peu avec toi de la dynamique qui s'installe entre les marques et les influenceurs. Est-ce que peut-être aujourd'hui, on se doit d'avoir des ententes un petit peu plus rigoureuses, mieux établies sur ce qu'on veut atteindre pour s'assurer de ne pas avoir de mauvaises surprises dans le contenu qui va être fait? Parce que je veux vraiment mettre dans la peau des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont avoir à continuer à faire du marketing d'influence. Comment qu'on peut les préparer à s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises au moment de recevoir le contenu? Oui, bien entendu, on veut des briefs, mais est-ce que peut-être même au niveau des ententes, au niveau de la collaboration, est-ce qu'il y a des choses différentes qu'on devrait faire?
Oui, tout à fait. Déjà, il faut être très clair sur la durée d'utilisation de ce qui va être créé par l'influenceur. Ça, c'est très important. Il y a des personnes qui oublient de mettre ça dans leur contrat. Et malheureusement, au bout d'une semaine, mais c'est la fin de l'entente, c'est juste le temps que le post s'évapore dans mon feed. Non, ça, il faut faire vraiment attention à ce niveau-là. Ensuite, il faut, à mon sens, qu'on soit une agence ou directement le e-commerce, il faut faire une rencontre téléphonique à minima ou en visio pour un petit peu sonder, on va dire, la personne et voir si la collaboration pourra se faire. Parce que vraiment, une collaboration avec un influenceur, c'est une collaboration avec un humain. Et il faut vraiment qu'il y ait un bon feeling. Ça se ressent finalement.
Donc au final, de ce que je comprends, c'est que le marketing d'influence a évolué, mais le marketing d'influence n'est pas mort.
Non, il n'est pas du tout mort. Au contraire, il y a encore des agences d'influenceurs qui ouvrent leurs portes, notamment pour la micro-influence. Micro-influence, c'est tout ce qui est moins de 10 ou 15 000 abonnés environ. Et finalement, si ça ouvre encore, je crois même qu'il y en a deux qui ont été très promus dernièrement en ce début de mai. Donc, je pense que c'est loin d'être terminé.
Mais on doit s'ajuster, on doit faire les choses un petit peu différemment.
Exactement.
Intéressant. Anthony Racoteo, est-ce que tu as d'autres choses à nous parler pour les influenceurs, pour le monde de l'influence, le monde du e-commerce, avant que je te laisse filer?
Eh bien, que les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs influenceurs pour une marque, c'est finalement le personnel et les personnes qui sont derrière la marque, le CEO, le PDG, etc. On en voit de plus en plus quand ils prennent la parole et le contenu qu'ils vont poster de manière organique, ça va vraiment avoir une plus-value très, très importante sur le social proof, finalement, de la marque. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont derrière une marque à prendre leur smartphone et à créer du contenu.
Je pense qu'on devra faire peut-être prochainement un épisode sur le personal branding pour les marques en e-commerce, parce qu'on le voit même avec des clients chez nous que certaines fondatrices et certains fondateurs qui se mettent devant la caméra, ça peut devenir des campagnes publicitaires à haute performance. Donc, clairement, quelque chose à considérer.
À 200%, on vient d'en faire une commande pour un de nos clients, donc je peux l'affirmer.
Fantastique. Antonia, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était super clair. Donc, on le voit, on l'entend. Le monde du marketing d'influence évolue de manière rapide et peut-être pas exactement comment qu'on l'anticipait. Donc, on fait nos recherches, on est vigilant avec les gens qu'on doit travailler pour s'assurer de ne pas avoir de mauvaises surprises. Antonia Racoteo, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Élite.